Le bilan de s'alourdir au Népal, 675 morts et près de 3000 disparus après la crue dévastatrice de mercredi. 4 Français figurent parmi les personnes recherchées. Lors de la rentrée politique en métropole, Jordan Bardella jure fidélité à Marine Le Pen. À gauche, Olivier Faure appelle à l'unité et prédit la mort du Bloc central. Le sport en fête au Mont d'Or, des milliers de visiteurs et une trentaine de clubs étaient réunis hier à Boulari pour une journée au complexe Victorin Boéwa. Richard Poirariwa prend la tête du Sénat coutumier. Le sénateur de l'air Paichi Chemui succède à Ludovic Boula au terme du 26e congrès du pays Kanak. Le sport, le cyclisme, coup de tonnerre sur le Tour d'Espagne. Tadej Pogacar contraint à l'abandon après une chute. L'Espagnol Enric Mas prend la tête du général. Le Français Brian Coquart s'impose au sprint sur la 8e étape. Et puis, sur le territoire du football, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe de Calédonie. L'AS Cougnet défiera Horizon Sport. Rendez-vous le 12 septembre au stade du Madélé. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal à la une ce matin. L'actualité à l'étranger. 3 jours après la gigantesque crue qui a touché le Népal et la Chine, le bilan n'en finit plus de s'alourdir. Il est désormais porté à 675 morts et près de 3000 personnes qui sont toujours portées disparues dans les deux pays, dont 4 Français. La zone touchée est très enclavée et toujours difficile d'accès. Sur place, les secouristes redoublent d'efforts, mais les opérations de secours sont extrêmement difficiles. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Un travail lent et épuisant, alors que la crue a tout emporté sur son passage. Des villages entiers rayés de la carte, des immeubles, des maisons détruites en quelques secondes. Et une zone désormais entièrement recouverte de boue. C'est précisément cela qui rend la tâche des secouristes si difficile. Et la pluie aussi qui continue de tomber, comme l'explique ce secouriste népalais.
Les gens veulent récupérer le corps de leurs proches, qu'ils soient en vie ou morts. Mais on ne trouve ni les vivants, ni les morts. On ne voit que la boue.
Signe de la violence de cette crue, 7 corps ont été retrouvés à des dizaines de kilomètres en aval dans le nord de l'Inde aujourd'hui. Au Népal, les coulées de boue ont touché des zones bien plus au sud, provoquant la fermeture de la route reliant Katmandou, la capitale, à Pokhara, seconde ville du pays. C'est là que se trouve Mao Cordier, un jeune travailleur humanitaire français.
La zone a été restreinte déjà d'une parce que les ponts ont été endommagés. À certains endroits, il n'y a plus de ponts. À certains endroits, il n'y a plus de routes. Et encore des villages qui sont coupés, qui n'ont pas forcément de réseau. Il y a de plus en plus de morts. On retrouve de plus en plus de corps. Les chiffres ne font qu'augmenter. Malheureusement, on peut atteindre les 2000 morts. C'est ça le souci.
L'aide internationale, quant à elle, afflue au Népal. L'Union européenne promet notamment 2 millions d'euros pour les familles et les communautés les plus durement touchées par la catastrophe.
Wilfried de Villers du service international d'Europe 1, à l'étranger toujours. Et en bref, Caracas et Washington annoncent un accord pétrolier qualifié d'historique, révélé par Donald Trump et confirmé par la présidente vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez. Il donne aux États-Unis le contrôle majoritaire de plus de 65 milliards de barils de réserves répartis sur 17 champs stratégiques. Washington évoque plus de 100 milliards de dollars d'investissement. Un accord conclu 7 mois après le raid militaire américain qui avait abouti à la capture de Nicolas Maduro. Et puis cette attaque d'un entrepôt près de Kiev par un drone russe la nuit dernière. Au moins 37 personnes sont mortes. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'infrastructure contenait des munitions, des drones et des explosifs. Venons-en à l'actualité politique en métropole. L'élection n'aura lieu que dans 9 mois, mais déjà la campagne pour la présidentielle bat son plein et les leaders politiques sont partout ce week-end, à Sens, Vendôme ou encore Tourcoing. Jordan Bardella, lui, faisait sa rentrée à la foire de Châlons en Champagne. Première véritable apparition politique après un été particulièrement discret. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Difficile pour Jordan Bardella de faire quelques mètres sans être arrêté. Dans les allées de la foire, le président du RN avance lentement, entouré d'une foule compact venu à sa rencontre. Bonjour. Une rentrée au contact de ses soutiens après un été compliqué, car Jordan Bardella veut surtout couper court à toute idée de frustration après la candidature de Marine Le Pen.
Ce qui compte, ce ne sont pas les ambitions personnelles. Ce qui pourrait être des humeurs contrariées, supposées, n'ont absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est le pays, c'est la France. Et aujourd'hui, il appartient à Marine Le Pen de porter le redressement de la France sur ses épaules. Je l'aiderai à gagner et à tous les Français, je dirai que je serai là, quoi qu'il arrive.
Message de loyauté donc, mais parmi ses fans, certains auraient volontiers inversé les rôles.
J'aurais bien aimé que ça soit Jordan. Marine allait bien aussi, mais le problème c'est qu'elle n'a jamais gagné.
À Jordan Bardella désormais de transformer cet enthousiasme autour de sa personne en soutien à Marine Le Pen. être partout dans la campagne sans jamais apparaître comme le candidat.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. À gauche, Olivier Faure a fait sa rentrée lui aussi à Blois. C'était lors du campus socialiste. Le premier secrétaire du Parti socialiste a prononcé un discours face aux militants. Et s'il n'a rien dit de sa probable candidature à la primaire de la gauche, il a en revanche prédit la mort du Bloc central.
Emmanuel Macron a raté son rendez-vous avec ce pays. Avec la grandeur de son histoire, la soif de justice des Français, c'est terminé. Ses anciens premiers ministres pourront se couvrir de cendres, c'est terminé. Le Bloc central va s'effondrer, c'est terminé. La seule question est désormais de savoir qui sera chargé de reconstruire, tout réparer, tout réorganiser. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent et nous attendent, nous sommes prêts!
Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste lors du discours de clôture du campus socialiste à Blois dans le Loir-et-Cher. Le premier ministre, lui aussi, a choisi sa campagne. Elle est budgétaire et pas présidentielle. Sébastien Lecornu l'a réaffirmé il y a quelques heures. Le gouvernement est un gouvernement de mission, pas un gouvernement en campagne. Le premier ministre a redit qu'il n'est pas candidat à la présidentielle et il a de nouveau alerté sur la situation financière gravissime que provoquerait une absence de loi de finances.
Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez bien la situation dans laquelle je suis. Déjà, il reste 8 mois dans lesquels il ne faut pas de désordre. Le gouvernement peut tenir cette boussole-là à la condition de ne pas se mêler à l'élection présidentielle. Donc en fait, déjà là, dans les semaines qui vont venir, les enjeux de la classe politique, votre serviteur en tête, c'est de faire en sorte de ne pas rajouter un désordre domestique au désordre international. Et donc je vais être direct, il faut un budget. On peut prendre des mesures de redressement cet automne qui sont difficiles, mais qui ne sont pas brutales. Car si elles ne sont pas prises maintenant, ces décisions difficiles, il est à peu près certain que la prochaine équipe, quelle qu'elle soit, ne pourra pas faire autrement que de prendre des mesures brutales. C'est la différence entre difficile et brutal.
L'agriculture est mon dossier numéro 1 de la rentrée, a par ailleurs indiqué Sébastien Lecornu. Il faut agir vite, a déclaré le Premier ministre qui promet un plan de soutien et de sauvegarde pour aider les agriculteurs à passer l'hiver et un plan de relance pour 2027 pour les filières touchées par la sécheresse. Les politiques, on vient de l'entendre, sont donc en campagne, mais ils ne sont pas encore convaincants selon certains patrons. Parmi eux, le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné. Il se dit résolument inquiet pour l'économie française, notamment en cas de deuxième tour à l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le président du groupe pétrolier Total Energy estime qu'il ferait courir un risque à la France. Pour lui, on manque de visionnaires.
Quand j'écoute les programmes économiques des candidats, il y a de quoi être inquiet. Ça, je vais vous le dire clairement. Une forme d'étatisme. On voit pas l'entreprise au cœur de leur programme, alors que je pense que ceux qui créent des recherches dans ce pays, c'est l'entreprise. Moi, j'entendais ces programmes, on veut tout redistribuer sans s'occuper de la production. Ça ne marche pas. Enfin, on constate qu'aujourd'hui, malheureusement, je veux dire, il y a un manque de courage dans toute la classe politique pour faire face à la situation. Mais pour avoir le courage, il faut avoir une vision pour la France. Moi, ce que j'attends d'ailleurs dans ce débat, c'est que les leaders exprime une vision. Je vois pas de vision. Moi, je pense que ce pays doit quelque part se remettre à produire, se remettre au travail, mais par exemple pour arrêter de faire que toutes les charges qui financent la protection sociale soient sur le travail. Ça ne peut pas fonctionner.
Le PDG de Total Energy a par ailleurs assuré qu'il maintiendra son plafonnement des prix des carburants tant que le conflit durera au Moyen-Orient, et ce même si cette protection coûte de l'argent à l'entreprise. Il est 7h10, on marque une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en Calédonie.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Tu as une idée, l'envie d'entreprendre, mais tu ne sais pas par où commencer ? Itinéraire Créa Sud, dispositif financé par la province Sud et animé par Initiative NC, revient dans 5 communes pour 4 jours de formation entièrement gratuite sur la création et gestion d'entreprise. Bourail, Boulou-Paris, Païta, Dombéa ou Yaté, si tu habites ou peux te rendre dans une de ces 5 communes et que l'entrepreneuriat t'attire, ce dispositif est fait pour toi. Aucun prérequis, juste une idée suffit. Inscris-toi via la page Facebook d'Initiative Nouvelle-Calédonie avant le 7 septembre.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal d'actualité locale avec Lionel Sabot.
Avec un beau succès pour la fête du sport du Mont-d'Or hier, le rendez-vous a attiré de nombreux visiteurs et notamment la jeunesse. L'événement se déroulait toute la journée à Boulary au complexe sportif et culturel Victorin Boéwa Mickaël Juneski.
Oui, l'ensemble du site s'était transformé en immense parc des sports pour offrir toute leur place aux associations et aux structures sportives de la commune. Près d'une trentaine de clubs avaient pris leur quartier sur le stade, dans les salles, la piscine, les cours de tennis, terrain de pétanque, sur la totalité des infrastructures du complexe de Boulary. Il y en avait pour tous les goûts, des classiques, football, basket, rugby, handball, jusqu'aux disciplines plus insolites.
Je viens d'essayer du parcours.
Ninja Warrior.
Un peu dur. J'ai envie de refaire.
Alors nous, on propose un échantillon en fait de notre parcours. C'est pour donner un avant-goût de ce qui est proposé en salle.
C'est trop net carrément. On adore ça. On fait stand par stand pour voir ce qu'il y a et puis voilà.
Je suis rider en dog start, puis un peu tout le support foil, kite, wing et compagnie. C'est vrai que le dog start, c'est une discipline assez neuve en Calédonie et ça fait plaisir de pouvoir montrer un nouveau support et puis essayer de démocratiser la discipline.
À la découverte de la boxe.
C'est ça un peu les bases. On va pas les taper très fort. Placement des jambes.
J'ai des amis autour de moi qui font de la boxe, etc. Moi, c'est taekwondo. Du coup, ça n'a rien à voir avec la boxe.
Donc, le kudo, en fait, c'est le tir à l'arc japonais. On utilise des arcs relativement grands. Pour moi qui fais 1m85, l'arc doit faire 2m33.
Ulrich Cabagny et je suis initiateur en motocyclisme. C'est un très grand plaisir d'être là, de partager ma passion. Ils peuvent s'initier à différentes disciplines et choisir une discipline qui leur plaît, quoi.
Pas des sports auxquels on a l'habitude de venir pratiquer. On est plus sur un sport collectif comme le basket. Donc c'est intéressant aussi de s'ouvrir et de voir d'autres personnalités aussi.
Et c'était un moment important pour la municipalité du Mont-d'Or qui tenait à afficher son soutien aux acteurs impliqués dans le sport. Nous en avons parlé lors de notre table ronde sur le stand RRB hier midi en direct de cette fête du sport, notamment en compagnie du maire Nina Julier qui est aussi membre du gouvernement en charge des sports et qui a rappelé plusieurs enjeux phares dans les années à venir pour ce secteur.
On a les Jeux Olympiques de 2032 à Brisbane. La Nouvelle-Calédonie est pas loin et elle pourrait, si elle se débrouille bien, à bénéficier de plein de choses, notamment de financement pour rénover ses infrastructures. Elle pourrait devenir la base arrière en fait de l'équipe de France. Donc on pourrait bénéficier du rayonnement des Jeux Olympiques avant 2032, pendant les Jeux Olympiques et après. On va avoir des belles opportunités à saisir et il faut qu'on s'en empare pour justement amener nos jeunes à faire du sport parce que l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte que nos jeunes soient bien, c'est de faire en sorte que nos jeunes participent à un projet de société, qu'ils se respectent les uns les autres, qu'on crée des moments d'unité, des moments de fierté collective. Donc pour moi, c'est vraiment l'image d'une société.
Une table ronde à laquelle participait également Anthony Tran, adjoint en charge des sports au Mont-d'Or, Leslie Filitou-Laga, championne d'athlétisme, Renato Portera, président du VCC Mont-d'Or, ou encore Ludovic Langagnier, père d'un jeune rugbyman impliqué comme papa bénévole dans le club du Mont-d'Or. Des milliers de visiteurs avaient fait le déplacement, notamment des jeunes et des familles, pour découvrir toutes les activités proposées sur la commune. La fête du sport du Mont-d'Or se déroulait de 8h à 15h au complexe sportif de Boulary.
Richard Poirier-Houa est le nouveau président du Sénat Coutumier. Le sénateur de l'air Paichi Chimui succède à Ludovic Boula de l'RGO. Cette passation coutumière de la présidence aura été le temps fort du 26e congrès du Pays Kanak qui s'est achevé hier à Nouville. Pendant deux jours, les sénateurs coutumiers mais aussi les représentants des institutions ont échangé autour de plusieurs thématiques. La jeunesse, la cohésion sociale ou encore le développement économique. Ils ont également dressé le bilan de la mandature achevée. Le nouveau président, lui, dit ne pas avoir de priorité personnelle. Sa mandature s'inscrira, dit-il, dans la continuité du travail engagé.
J'ai pas de priorité personnelle, c'est une continuité. Donc c'est tous les dossiers qui sont en cours qu'on va essayer d'amener là. Et c'est vrai qu'il y a des priorités, mais ces priorités-là, on doit faire le point pour pouvoir justement, au sortir de ce congrès. Et le problème, c'est que maintenant, il faut amener les actions. Le temps de la parole, c'est bon, on continue à se parler, mais maintenant, il faut passer à l'action. Et c'est pour ça, avec les institutions, État et local, on essaie de travailler ensemble pour pouvoir essayer d'amener les choses de l'identité kanak, telle que ça a été défini par l'accord de Nouméa. Voilà. Le cadre, c'est l'accord de Nouméa, ni plus ni moins.
La désignation du nouveau président du Sénat coutumier s'est déroulée en présence notamment du haut-commissaire Jacques Billon, du général Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, mais aussi des consuls de Nouvelle-Zélande, d'Australie et du Vanuatu. Les soldes d'hiver ont débuté hier. Pendant 4 semaines, les Calédoniens vont donc pouvoir profiter de promotions avec des rabais qui peuvent atteindre 80% déjà dans certains magasins. Dans un contexte économique tendu, cette période de soldes est l'occasion évidemment de faire de bonnes affaires. Et les clients ne s'y sont pas trompés. Ils étaient nombreux dès hier matin dans les magasins du centre-ville de Nouméa.
Je commence à faire les boutiques en ville et là j'ai trouvé un maillot de bain, des paires de chaussettes qui sont vraiment bien soldées. Le maillot de bain est à 1500 francs au lieu de 4600 francs et 3 paires de chaussettes Adidas pour 500 francs.
C'est très bien, j'aime bien les prix, c'est raisonnable. On voit qu'il y a beaucoup de changements au niveau des prix et que ça permet à chacun de se faire plaisir. En plus, ils ont bien choisi la période aussi pour faire les soldes. Ben là, on cherche des maillots, des shorts, chaussures pour les enfants et pour nous aussi. Là, on a des t-shirts à 500 qui sont pas chers avec des... Mais on a même des petits shorts à 100 francs, bien soldés, ouais, pour un grand magasin comme ça.
C'est pas mal. Parce que là, on est venu chercher des chaussures pour mes enfants. Mais là, au lieu de 8000, j'en ai pour 5000. Ça vaut le coup.
Pour l'instant, écoutez, c'est de bonheur, c'est pas mal.
Qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous fait plaisir ?
Sweatshirt pour monsieur. Mais moins 50, c'est intéressant. Voilà.
Et les soldes d'hiver vont se poursuivre jusqu'au dimanche 27 septembre. Bilan positif pour la première édition du festival Calédéoscope à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Vendredi, plus de 200 élèves venus de 5 écoles de Nouméa ont fréquenté les différents ateliers proposés autour du thème « Écouter pour apprendre, partager et transmettre ». Et hier, le festival s'ouvrait au grand public qui a aussi, lui, répondu présent.
Je pense que c'est un très beau lieu pour pouvoir mêler science et art et que c'est ouvert au plus grand nombre. Du coup, ça permet à la fois aux enfants, aux adultes. J'ai vu tous les projets, j'ai été sur tous les stands et il y a vraiment de tout. Il y a des sciences fondamentales en biologie, il y a également des sciences humaines et sociales, il y a aussi des sciences dans le juridique. Du coup, c'est vraiment très intéressant à voir se mêler toutes ces thématiques qui existent ici sous forme d'art. Donc, c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus compréhensible. Là, j'étais en train de regarder la bande des ciné qui a été effectué par l'association des doctorants néo-calédoniens. C'est beaucoup plus parlant comme ça, sous forme de jolies images avec des petites bulles de bande dessinée.
C'est intéressant, il y a plein de choses qu'on apprend. J'ai bien aimé le truc de la cloche avec le fait qu'il n'y ait plus d'air, eh bien, le son ne circule pas, quoi. Et puis le bruit des grenouilles, j'ai bien aimé aussi.
J'ai fait un peu le tour des stands, c'est très instructif, plus facile à comprendre que juste un titre. Vraiment, c'est beaucoup d'images, beaucoup d'animations, beaucoup de vulgarisation et c'est beaucoup plus accessible.
Et le festival Calédoscope a refermé ses portes hier à 16h sur le campus de l'UNC à Nouville. Et puis matinée portes ouvertes hier à l'EGC, l'école de gestion et de commerce. Comme chaque année, cette journée marque l'ouverture des inscriptions pour la rentrée 2027. Futurs étudiants, lycéens et parents étaient nombreux à venir découvrir l'école, ses programmes et ses débouchés, à rencontrer la direction, les équipes pédagogiques, mais aussi les étudiants. La date limite d'inscription à l'école de gestion et de commerce est fixée au 30 septembre. Il est 7h19, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo de votre dimanche.
Dimanche 6 septembre aura lieu le 43e Marathon international mobile de Nouvelle-Calédonie avec le concours et le soutien de la ville de Nouméa. Dès 7h, départ simultané du marathon et du semi-marathon mobile. 8h, le 10 km Tukuyama, 10h30, course pour les enfants de 7 à 13 ans. Inscription en ligne jusqu'au samedi 29 août, 23h, ou à l'hippodrome du mardi 1er septembre au vendredi 4, de 9h à 18h en continu. Attention, Anzata fermée de 7h à 8h, circulation perturbée sur les baies et promenades Vernier de 6h à 12h le 6 septembre au matin. Venez nombreux!
Jusqu'au 18 septembre, gagnez un séjour dépaysant au Malibu Beach. Logez 5 nuits en bungalow jardin avec vue mer, petit déjeuner et dîner pour 2 personnes. Profitez de la mer avec les kayaks mis à votre disposition, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 119 000 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Le Malibu Beach vous accueille toute l'année dans un cadre idéal pour se ressourcer et s'évader en couple ou en famille. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors, pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort vendredi 18 septembre à 14h, 371 francs le SMS. N'oubliez pas, sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du cyclisme et ce coup de théâtre sur le Tour d'Espagne. L'abandon de Tadej Pogacar après une chute, Mikel Genesky.
À 33 km de l'arrivée de la 8e étape de la Vuelta, Tadej Pogacar a été victime d'une violente chute dans le cœur du peloton. Le Slovène de 27 ans a dû abandonner un Tour d'Espagne sur lequel il était le leader incontestable, avec près de 4 minutes d'avance sur ses principaux rivaux en tête du classement général. Le maillot rouge a été déséquilibré, probablement à cause d'une pierre sur la route, et il a entraîné d'autres coureurs dans son action. Sa tunique a été déchirée au niveau de son épaule gauche, en sang, son visage touché, notamment une ouverture au niveau de l'arcade du même côté. Il souffre d'un traumatisme crânien ainsi que d'une fracture, notamment au poignet. Il devra être opéré et sa fin de saison est compromise. Le cannibale slovène n'avait plus abandonné une course depuis 2023, après la classique Liège-Bastogne-Liège, déjà en raison d'une chute. Le Tour d'Espagne reste par ailleurs le dernier grand tour qui manque à son palmarès. La réaction de Jorian Fernandez Martin, le directeur sportif de son équipe Emirates.
Ah, bien sûr, c'est le côté sombre du vélo. C'est terrible. Tadej est un coureur de renom. Il était en tête de la Vuelta avec plus de 3 minutes. C'est similaire à ce qui s'est passé avec Jonas sur le Tour de France. Maintenant, il faut qu'on soit là pour lui. C'était un moment assez calme à ce moment-là. Une grande route, il n'y avait pas de problème visible. Il n'y a personne qui est responsable, hein, finalement.
Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le suspense est relancé dans ce Tour d'Espagne. C'est le Français Brian Cocard qui a remporté la 8e étape au sprint devant le Danois Mats Petersen et le Belge Jordi Meus. Désormais, l'Espagnol Enric Mas est en tête du classement général avec seulement une minute d'avance sur le Slovène Primoz Roglic. Enric Mas a toutefois décidé de ne pas porter le maillot de leader sur le premier podium en tant que leader aujourd'hui. On arrive au terme de la première semaine seulement de ce Tour d'Espagne 2026.
Le football avec la suite de la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1 et la défaite de Lens sur le terrain de Strasbourg.
Le vice-champion de France, récent vainqueur du trophée des champions, s'est incliné sur le terrain des Strasbourgeois sur le score de 2-1. Malgré l'ouverture du score de Florian Thauvin sur pénalty en première période, les Strasbourgeois ont réussi à égaliser à la 48e minute et à passer devant sur une dernière réalisation à la 85e minute de jeu. En ce moment même, 4 autres matchs sont en cours et après 70 minutes de jeu, le Le Havre a pris l'avantage sur l'Olympique Lyonnais, 1-0. Auxerre et Angers sont sur un score de parité, 1-1. Brest est mené sur sa pelouse face à Toulouse, 2-1. Avantage aussi à 3, l'un des promus qui mène à Lorient, 2-1. Il reste encore une vingtaine de minutes à jouer dans ces 4 rencontres.
Sur les terrains de rugby, les Springboks ont pris leur revanche sur les All Blacks dans la tournée des Néo-Zélandais en Afrique du Sud. Les doubles champions du monde en titre se sont imposés sur le score de 33-26 après leur défaite la semaine dernière à Johannesburg, 33-16. Les deux formations se retrouveront pour un troisième et avant-dernier test match la semaine prochaine. Les sports mécaniques à présent, Mickaël, avec au menu ce week-end, rallye et MotoGP.
En MotoGP, le Grand Prix d'Aragon se dispute. L'Espagnol Marc Marquez a déjà remporté la sprint race devant son frère Alex Marquez et l'Italien Marco Bezzecchi qui avait signé la pole position sur le tracé espagnol. Le Français Joan Zarco, de retour de blessure, a signé une très belle 9e place. Alors que l'autre tricolore Fabio Quartararo a été contraint à l'abandon sur problème mécanique. La course principale sera à suivre ce soir dès 23h. Et sur le rallye du Paraguay, le Finlandais Sami Pajari est en tête de l'épreuve devant le Néo-Zélandais Aiden Pedon. Le Français Adrien Fourmeau est en 4e position en général après les 14 premières spéciales sur les 22 au programme tout au long du week-end.
Un mot de tennis avec une Française en finale du tournoi de Monterrey. C'est au Mexique. Diane Paris sera opposée à la Belge Elise Mertens, 24e joueuse mondial pour le titre, alors que l'US Open, rappelons-le, débutera dès demain à New York. Et puis pour les aventuriers, l'exploit d'une Française sur l'UTMB, le redoutable Ultra Trail du Mont Blanc, Blondine Lirondelle, c'est pas son surnom, hein, c'est son nom de famille, l'a emporté dans la catégorie féminine. La course de 174 km et de plus de 10 000 mètres de dénivelé positif après 21h54 d'effort à Chamonix. À 35 ans, elle a par ailleurs terminé est quatrième du classement Scratch. On en vient au sport sur le territoire, Mickaël, du football. On connaît l'affiche de la Coupe de Calédonie 2026. L'AS Cougnet sera opposé à Horizon Sport.
L'équipe de Cougnet est la première à avoir décroché sa place pour la finale. Hier, le club de l'Île des Pins l'a emporté face à l'AS Essor d'Imbéa sur le score de 2-0. Kenji Vendégou, entraîneur de l'AS Cougnet.
C'est une énorme fierté pour tout le club, pour tout l'Île des Pins. C'est une finale, on s'est dit qu'on allait regarder cette équipe dans les yeux, parce que même s'il y a une division d'écart, ils ont montré que justement un match de coupe, ça se jouait à 50-50 et ils sont bien rentrés dans leur match. On a su reprendre le dessus, mettre un peu de rythme et être dans leur camp plus souvent qu'eux en première mi-temps. On a marqué 2 buts, on a fait le travail en première mi-temps et après la deuxième mi-temps, on a réussi un peu à gérer. On a eu un peu de chance parce qu'ils ont aussi loupé un pénalty qui aurait pu relancer le match. Mais on est satisfait et puis c'est un gros soulagement et une grosse satisfaction. Ouais.
L'équipe de Dimbéa évolue actuellement en promotion honneur. Jouer une demi-finale, c'était déjà un grand moment pour toute l'équipe, estime Jules Wakanumune, coach de l'Essor de Dimbéa.
Je suis déjà très très fier de mes garçons. Donc pour une première pour le club, tomber en demi-finale, c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, très très fier de mes garçons. Notre objectif premier, c'est la montée en Super League. Jouer contre des équipes de Super League, c'est tout un bonheur pour nous. C'est toujours un bonheur. Ça fait plaisir et puis on va travailler pour notre objectif premier du club.
L'autre rencontre du dernier carré a vu Horizon Sport s'imposer sur le FC Belep-Mondor, 4-2 au terme d'une rencontre à rebondissement. Dimbéa et Belep-Mondor, les deux équipes de promotion honneur, voient donc l'aventure s'arrêter pour laisser deux pensionnaires de l'élite continuer jusqu'au dernier duel pour le titre. La finale de la Coupe de Calédonie 2026 se disputera le 12 septembre prochain, toujours sur la pelouse du stade Nouma Dehlé.
Et puis quelques rendez-vous à vous donner pour ce dimanche. Rendez-vous sport avec du BMX et la troisième des 4 manches de la Coupe de Calédonie sur la piste de Tina, du cricket également, avec les finales du championnat territorial senior hommes et dames qui se déroule à Point-d'Imier. Chez les messieurs, Berumas défiera ce matin le SI. Chez les dames, à partir de midi, le dernier duel pour le titre opposera Wejumel à la JS UVA. Et puis du trail, celui de Tomo Valley qui est organisé aujourd'hui par Challenge Organisation. 3 parcours proposés, 4 km, 8 km et 15 km. On termine avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sur les murs depuis 1971. Showroom sur les bains à Ducos. Magasin peinture à Ducos et NGA. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce matin, Pierre.
Et oui, ce matin, le ciel sera assez contrasté selon les secteurs. Sur le sud-ouest, l'extrême sud est maré. Les passages nuageux seront nombreux et pourront s'accompagner de courtes averses. Ailleurs, le soleil brillera généreusement. Le vent s'orientera au sud-est entre 10 et 15 nœuds en général. Il sera plus faible sur la côte est avec un vent d'est à sud-est compris entre 5 et 10 nœuds. Cet après-midi, le soleil restera bien présent sur le nord-ouest et le nord des îles Loyauté. Ailleurs, les nuages prendront davantage de place. Des averses remonteront encore sur le sud-ouest tandis que d'autres pourront se développer sur le relief avant de gagner progressivement la côte est. L'alizée de sud-est se renforcera autour de 15 nœuds avec localement 15 à 20 nœuds sur le nord-ouest. Sur la côte est, il restera plus modéré autour de 10 nœuds. Et les températures, quant à elles, maximales évolueront peu et seront comprises entre 22 et 25 degrés.
Merci Pierre, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc.